Nous avons donc terminé ce que nous voulions dire sur saint Thomas et les voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Je réponds ici aux questions avant de voir autre chose. Vous avez dit que le non regressus à l'infini était un corollaire du principe de causalité. Il semble qu'Aristote étende le non regressus à toutes les causes lorsqu'il dit en alpha 2. De plus, il est évident qu'il y a un premier principe et que les causes des êtres ne sont pas en nombre infini. D'une part, elles ne forment pas une série verticale infinie, et d'autre part, elles ne présentent pas un nombre infini d'espèces. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je crois que c'est justement que nos regressus à l'infini qualifient le principe de causalité. Et qu'il se retrouve, selon le livre Petit Alpha, dans chacune des causalités. Chacune des causalités aboutit nécessairement à un premier fondamental quand il s'agit de la cause matérielle, un premier formel, et ainsi de suite. Donc il y a toujours un premier, c'est pour ça que le non regressus à l'infini n'est pas un principe distinct du principe de causalité, mais un principe qui vient qualifier le principe de causalité. Et je crois que c'est ce que nous devons dire. Alors c'est très curieux parce que ce non regressus à l'infini, de fait, historiquement, est apparu avant la causalité, c'est pour ça que je dis propriété, c'est comme toujours, hein. La propriété est saisie avant le principe. Et puis il demeure après. Le non regressus à l'infini demeure même quand le principe de causalité disparaît. Alors il y a le principe de causalité qui disparaît et non regressus à l'infini demeure. Alors ça c'est une question de critique, hein, avant tout. Mais c'est une question de critique intéressante de voir comment le principe de causalité implique une détermination. S'il implique une détermination, il implique un ordre. S'il implique un ordre, il implique qu'on ne peut pas remonter à l'infini. Parce que l'ordre implique une mesure. Et donc on ne peut pas remonter à l'infini. Remonter à l'infini ne peut se faire que d'une façon accidentelle. Quand vous êtes dans le point de vue du conditionnement. Le conditionnement peut être infini. C'est le fameux exemple que prend saint Thomas pour enfoncer un clou. Je prends un marteau, ce marteau faible, parce que le clou est plus dur que le marteau, je suis obligé de le jeter, je prends un autre marteau, je peux en prendre un infini marteau, per accidens. Donc, le conditionnement. Dans l'ordre du conditionnement, on peut remonter à l'infini. Pourquoi ? Parce que dans l'ordre du conditionnement, je suis en dehors du principe de causalité. Je suis dans quelque chose de relatif et quelque chose de second. Alors, nous allons maintenant, si vous voulez, c'est toujours très important et très vaste ce problème des preuves de l'existence de Dieu. Nous avons vu, si vous voulez, au début de l'année, saint Anselme, si vous vous rappelez bien, et j'ai pris saint Anselme parce que saint Anselme est quand même un représentant très important au point de vue du problème de l'existence de Dieu. Nous avons beaucoup développé saint Thomas, parce que ça nous intéresse spécialement et que c'est sûrement une arête dans toute la philosophie de saint Thomas, le problème de la manière dont l'intelligence humaine peut remonter jusqu'à Dieu. Pour saint Thomas, c'est un grand problème et un problème fondamental, puisque si l'intelligence humaine ne peut pas remonter jusqu'à Dieu, si l'intelligence humaine ne peut pas se poser ce problème d'une façon métaphysique, d'une façon philosophique, évidemment, une preuve qui n'est pas une preuve, comme on dit, scientifique d'aujourd'hui. C'est une démonstration a posteriori, c'est-à-dire une démonstration très imparfaite. Et elle est analogique. Ce qui fait que nous avons beaucoup de peine, il faut bien le reconnaître, hein, nous avons beaucoup de peine à saisir la rigueur d'un raisonnement analogique. Il faut avoir un sens très aigu de la qualité. Comme dans le monde d'aujourd'hui, on ne l'a plus du tout. Alors c'est pour ça que c'est très difficile. C'est pas efficace du tout une démonstration a posteriori. C'est pour ça que toutes les apologétiques voudront une autre démonstration. Alors ils se mettront le doigt dans l'œil. C'est ce qu'on va voir avec Descartes. Descartes, c'est le premier qui vraiment pose la question d'une façon tout à fait à côté. Et on va suivre Descartes. Vous voyez, il faut saisir un peu cette grande montée historiquement. C'est ça qui est intéressant à voir. Anselme. Anselme n'est pas à côté. C'est curieux, Anselme. On peut tout tirer de saint Anselme. C'est un bon moine qui réfléchit. Et en plus de ça, il est abbé. Alors, il a une grâce des torts. Sur le petit novice, qui est plein de tentations. Alors, on lui fait comprendre qu'il faut dépasser ses tentations. Et alors, saint Anselme raisonne. Il a raisonné grâce à son novice. Autrement, il ne raisonnait pas. Un bon moine ne raisonne pas. Et il continue de vivre, tout simplement. C'est vrai, c'est la vie monastique ne nous apprend pas à raisonner au sens propre. La vie monastique nous apprend à aimer, à vivre dans un ordre religieux et à l'affectivité. C'est ça que ça développe. Mais ça ne développe pas du tout la diligence. Pas du tout. La gargarie jusqu'au maintenant, c'est comme ça. La vie monastique n'est pas un lieu de développement de l'intelligence. Ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Il ne faut pas demander à des lieux qui sont faits pour être le point de vue contemplatif et liturgique de leur demander ce qui n'est pas pour eux. C'est pas ça. On continue de faire ça. Si jamais vous posez une question, c'est un scandale. Vous voyez, la tradition, hein, la tradition, et ne secouez pas la tradition. Parce que ça, c'est propre, ça, il faut le reconnaître. Hein. Ce sont des réserves, des saintes réserves de la vie monastique. Hein. J'aime beaucoup, c'est pour ça que je veux dire ça, mais il faut quand même comprendre ce que c'est. Parce qu'autrement, si vous voulez voir autre chose de la vie monastique, vous vous trompez complètement. Il faut bien voir qu'à l'intérieur de la vie monastique, il y a eu un grand éclatement avec la vie dominicaine. Déjà avant, avec saint Bruno. Saint Bruno donne un type de vie monastique qui est tout à fait différent que la vie bénédictine. C'est une vie monastique contemplative, intégrant des études. Il ne faut pas l'oublier, saint Bruno était de son temps à Reims, le premier théologien, un peu comme, on verra saint Albert, de Cologne tous les deux, du reste, lui, était le premier théologien. Et il a voulu une vie monastique après, une vie contemplative. Donc il y a eu chez lui tout cet aspect d'intégration de connaissances de théologie. C'est pour ça qu'on disait toujours dans l'ordre qu'un dominicain louche tout le temps sur les chartreux. Et c'est vrai, il doit loucher tout le temps sur les chartreux. Comme la communauté Saint-Jean louche sur Bethléem. Vous voyez, c'est une autre manière, mais c'est comme ça. Parce que c'est un peu une reprise avec un aspect de vie monastique qui est quelque chose de contemplatif. Et dans la mesure où la vie monastique est contemplative, elle assume les études. Tandis qu'une vie monastique purement liturgique a beaucoup de peine d'assumer les études. Parce que c'est la tradition. C'est le poids de la tradition qui est là. Mais qui est très grand, hein, il ne faut pas le diminuer. Qui est vraiment très grand, c'est le tronc. Quelque chose de très enraciné. Alors c'est la tradition. Saint Anselme représente dans cette tradition quelque chose de très particulier. Très particulier, c'est ce qui explique cette chose hybride de saint Anselme. C'est très hybride, saint Anselme. On l'a senti. Alors on peut tirer certaines choses, on peut tirer de... C'est une réflexion de l'intelligence, c'est l'intelligence, la raison, qui va sortir de cette tradition. Pour le petit novice qui est tenté. Parce que quand on est tenté, la tradition ne suffit plus. C'est vrai, quand on est tenté, la tradition ne suffit plus. Quand on est très tenté, la tradition ne suffit plus. Parce que la tradition ne donne pas d'argument. La tradition reste quelque chose qui est beau, qui est grand, ça ne donne pas d'argument. Saint Anselme, saint Thomas. Alors saint Thomas fait une synthèse merveilleuse de tout ce que les pères de l'Église ont dit avant, avec un souci extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on n'acceptera pas simplement de laisser tomber toute l'épreuve d'intériorité. Enfin, il faut le reconnaître. Hein. Il faut reconnaître ça, ça peut scandaliser. Je comprends très bien que ça scandalise. Hein. Ça peut très bien scandaliser. Alors on dit non, saint Thomas, non. Le souci de saint Thomas, c'est un souci scientifique. Ça, c'est le grand souci de saint Thomas, c'est un souci scientifique. Le souci scientifique à la manière d'Aristote, hein. Pas scientifique à la manière des modernes. Mais comme le mot science existe avant la science moderne, j'ai le droit de le garder. Et dire, c'est la science moderne qui aurait dû prendre un autre terme. Ça, il faut reconnaître, comme vous voyez, une priorité quand même, hein, quand on est à droite. Alors, on a une priorité, et la priorité d'épistémée, le mot épistémée science, a existé bien avant la science moderne. Ça a existé au niveau mathématique, en premier lieu, puis enfin en philosophie. Alors, on voyait que le mot épistémée, c'est du reste très beau. Le mot épistémée a des modalités différentes. Et les anciens savaient que ça avait des modalités différentes. C'est nous qui sommes terriblement du vivant. Alors, quand on dit science, mais non, la science a des modalités différentes, parce que la raison a des modalités différentes. On est intelligent de diverses manières. On n'est pas intelligent d'une seule manière. Celui qui prétend être intelligent d'une seule manière, il est bête. Parce que c'est l'intelligence, elle est souple. C'est la qualité dominante de l'intelligence. Elle est souple. Alors, ramener l'intelligence à une seule forme, c'est la logique. Alors, quand la logique remplace l'intelligence, ça conduit à la bêtise. Mais ça, c'est très vrai. Il n'y a rien de plus assommant qu'un logicien qui ramène tout à la logique. Les anciens reconnaissaient, je dis ça, c'est parce que je crois que c'est des problèmes très très importants là-dessus. Les anciens reconnaissaient, je dis les anciens, les grecs, reconnaissaient que la science était d'abord mathématique. C'est vrai. Vous savez bien la fameuse parole d'Aristote, hein, ne l'oubliez jamais. Les sciences mathématiques sont nées en Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Alors, il faut garder les loisirs. Hein, parce que grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs, et les mathématiques sont nées à partir de là. Les mathématiques sont nées donc à partir de ce souci de contemplation. Les mathématiques donnent un sens contemplatif. Les vrais mathématiciens donnent un sens contemplatif. Et le mot science a été d'abord attaché à cela. Puis le mot science a été attaché à la philosophie, sans supprimer les mathématiques. Sans du tout les supprimer. Le mot épistémie a été pour les mathématiques, pour la philosophie. Pourquoi pas? Il y a diverses manières d'être scientifique. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être scientifique. Il y a diverses manières. Il y a la manière du mathématicien, il y a la manière du philosophe. Il est scientifique d'une autre manière. Puis le mot science a pris une nouvelle terminologie, une nouvelle signification à partir des sciences modernes qui donnent une autre signification. Et à partir de là, ça prend des significations multiples. Mais il ne faut pas qu'à cause des sciences modernes, on supprime le mot science de la philosophie et des mathématiques. Vous voyez ? Et je crois que c'est ça, être intelligent. Être intelligent, c'est reconnaître qu'il y a diverses manières de l'être. Puisque l'intelligent est toujours respectueux du plus petit que soi. C'est le propre de l'intelligence. On est respectueux de l'autre. Celui qui n'est pas respectueux de l'autre, ça prouve qu'il n'est pas très intelligent. Tandis que celui qui est respectueux de l'autre est intelligent. Il respecte. Il y a diverses manières d'être intelligent. Et bien, le souci de saint Thomas, c'est de montrer qu'il y a des voies d'accès qui sont déjà données d'une manière embryonnaire chez les pères de l'Église. Lui, il va les reprendre. Et c'est ça la vocation de saint Thomas. Qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, c'est autre chose. Mais il faut historiquement la reconnaître. La vocation de saint Thomas, c'est de reprendre tout ce qui, chez les pères de l'Église, était à l'état embryonnaire, à l'état de disposition, jusqu'à Albert le Grand. Et de leur donner un statut scientifique, mais scientifique au niveau philosophique. C'est pas une science moderne, du reste elle n'existait pas du temps de saint Thomas. C'est pas la science mathématique. C'est la science philosophique, donc, avec l'analogie, qu'il s'agit de bien comprendre. Une analogie qui est la fameuse analogie d'Aristote. Et l'analogie d'Aristote, vous savez, n'est intelligible qu'au moment où on a saisi la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance. Tant qu'on n'a pas saisi ça, on ne sait pas ce que c'est que l'analogie. Il faut vous reconnaître, c'est à ce moment-là où la philosophie prend son statut de science analogique. C'est-à-dire dans la diversité et l'unité cachée dans la diversité. Puisque c'est ça le propre de l'analogie. C'est la diversité, et à l'intérieur de la diversité, on saisit le tikkunon. Ce qu'il y a de commun. Qu'est-ce qu'il y a de commun à travers tout ça? Donc, le propre de saint Thomas, c'est les cinq voies qui rassemblent tout ce que j'ai essayé de voir la dernière fois. Mais on est dans une perspective théologique et non pas métaphysique. Saint Thomas n'a jamais fait de métaphysique pour elle-même. Saint Thomas n'a jamais fait de philosophie pour elle-même. Il a toujours fait de la théologie, de la philosophie en vue de la théologie. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend pas saint Thomas. Si ça a été l'erreur ensuite de croire que nous pouvions faire ça tout de suite, suarez. Ça, il faut bien situer Suarez. Ça, c'est très important de bien situer Suarez pour que nous puissions l'aimer. D'accord ? Parce qu'il faut l'aimer. Il faut aimer Suarez avec tout ce qu'il va donner comme tournant particulier. Je vous lis simplement ces quelques petites allusions. À la fin du XVIe siècle, Suarez apparaît comme le premier théologien scolastique qui est essayé de dégager pour eux-mêmes les problèmes métaphysiques inclus dans la théologie. Voilà l'intention de Suarez. Suarez veut sauver saint Thomas en face d'Occam. Il a une bonne intention. C'est pour ça qu'il peut être saint. Il a une bonne intention. Mais il lui manque une lumière suffisamment pénétrante. Et ça, c'est deux choses différentes. Contre le nominalisme, en particulier contre Pierre d'Ailly, Occam derrière, il affirme que l'on peut, par la raison naturelle, démontrer que Dieu, être premier, substance incréée, existe. Il distingue à ce sujet, parmi ses devanciers, quatre positions possibles. Vous voyez, c'est très intéressant de voir que dans l'ordre proprement de la connaissance, il voit cela, c'est pas du tout saint Thomas. Hein. Saint Thomas, vous voyez, je reviens maintenant, on va voir Suarez un tout petit peu, c'est un grand tournant. Par rapport à notre problème, comprenez bien, le grand tournant après saint Thomas, c'est Occam. Mais ça, par rapport à la philosophie d'une façon générale. Mais par rapport à ce problème de l'intelligence face à l'existence de Dieu, c'est Suarez qui va jouer un rôle capital. Ça, on ne peut pas nier. Et par rapport à la scolastique, Suarez joue un rôle capital. Donc on ne peut pas comprendre l'histoire du thomisme et la dégradation de la scolastique si on ne regarde pas Suarez. Alors évidemment, pour comprendre Suarez, il faut regarder Occam. Ça, c'est sûr. Occam est déjà. Alors, ce que je veux, et je reviens ici à l'instant, c'est que pour saint Thomas, le souci c'est donc de donner un statut scientifique à la théologie. Scientifique dans le sens propre d'Aristote. Sachant très bien que la théologie est une science subalternée. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autonomie. C'est presque contradictoire. Hein. Une science doit avoir son autonomie, et bien la théologie n'a pas d'autonomie. Et je crois que toutes les erreurs des modernes, c'est de rechercher à la théologie une autonomie en oubliant qu'elle est une science subalternée. C'est une science subalternée à la science des saints, c'est-à-dire à la vision béatifique du Christ. C'est une science subalternée parce qu'elle part de la foi. Alors si elle part de la foi, elle reçoit ses principes, Elle reçoit ses principes de quelqu'un qui voit. Et celui qui croit ne voit pas. Et donc la science théologique est une science subalternée. C'est une science, mais elle est subalternée. Donc théologie scientifique subalternée. Et pour fonder cette théologie scientifique, il donne les cinq voies. En montrant comment l'intelligence humaine est capable par elle-même d'atteindre l'exister de Dieu. Mais l'exister, pas immédiatement, il n'y a pas un jugement d'existence nouveau, au sens rigoureux, un jugement d'existence immédiat. Il y a un jugement d'existence nouveau, mais médiat. Quand je dis Dieu existe, mon intelligence ne touche pas l'exister de Dieu. Hein, faut bien comprendre ça. Il faut accepter que l'intelligence, vis-à-vis de l'exister de Dieu, dit il est nécessaire qu'il existe un être premier. Mais le mot Dieu n'a pas été inventé par les philosophes. Il relève des traditions religieuses. Et donc ce que l'intelligence humaine peut faire, c'est montrer qu'il existe nécessairement un premier. Il existe un premier dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de la vie, dans l'ordre de l'esprit, dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre de la vérité. Et ce premier, parce qu'il est premier dans l'ordre de l'être, est en même temps le premier dans l'ordre de la vie, dans l'ordre de l'amour, et ainsi de suite. Mais vous voyez, je n'ai pas une expérience immédiate de l'exister de Dieu. Si j'avais une expérience immédiate de l'exister de Dieu, l'athéisme serait une position absurde pour l'intelligence humaine. Oui. Tandis que, puisque je n'ai pas une expérience immédiate de l'existence de Dieu, on peut comprendre comment certains peuvent dire « moi, je ne comprends pas, je ne vois pas ». Alors, en disant « je ne comprends pas », ils devraient rester sur ce jugement. Parce qu'on ne peut jamais parler de Dieu pour celui... Alors il peut dire simplement, je ne comprends pas les traditions religieuses. Les traditions religieuses qui parlent de Dieu sont des mythes. C'est tout. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. En fond, on reste devant une position agnostique. On dit, je ne peux pas aller plus loin. C'est compréhensible parce que, de fait, l'affirmation, l'existence de Dieu, n'est pas immédiate. Oui. Donc si ce n'est pas immédiate... Ça implique une démonstration. Si ça implique une démonstration, on ne peut très bien ne pas voir la force de cette démonstration. Surtout une démonstration a posteriori, qui n'est pas commode du tout. Qui n'est pas aussi évidente qu'une démonstration proprement dite. C'est une démonstration imparfaite. Et donc si elle est imparfaite, elle ne convainc pas l'intelligence d'une manière absolue. Elle est imparfaite par elle-même, et puis en plus de ça, elle est analogique. Donc elle est difficile à manier. Mais l'effort de saint Thomas, c'est donc vraiment, et on pourrait dire, vous voyez, que c'est là le nœud de toute la pensée de saint Thomas, c'est dans les cinq voies. C'est pour ça qu'on ne perd jamais du temps à les comprendre par rapport à saint Thomas, parce que ça, on sent que c'est le fondement de toute sa théologie scientifique, ça. C'est ce que nous avons essayé de faire. Saint Thomas reconnaît qu'à côté de cela, il y a d'autres efforts, mais ils ne sont pas scientifiques. Ces autres efforts, c'est la preuve par l'intériorité, c'est la preuve par la participation, c'est tout ce qu'il assemble dans le début du commentaire de l'évangile de Saint Jean. Il nous montre qu'il y a d'autres voies. C'est intéressant de voir ça, parce que ça nous montre le regard de saint Thomas. Il a eu un effort de précision, mais dans cet effort de précision, il reconnaît qu'il y a d'autres choses, hein, et qui sont peut-être beaucoup plus importantes au point de vue pratique. Parce que l'aspect scientifique n'est jamais pratique. Jamais. Alors celui qui cherche la conversion des cœurs n'a pas à prendre ce point de vue scientifique. Hein. C'est autre chose, la conversion des cœurs, ça se fait autrement. Ça se fait différemment, ça se fait par la prière, ça se fait par la persuasion, ça se fait par le témoignage. C'est tout à fait autre chose, un autre registre. Hein. Si vous mettez à prêcher du haut de la chair les cinq voies de Saint-Thomas, je vais, hein. Le carême sur les cinq voies de Saint-Thomas. Premier dimanche, première voie, deuxième dimanche, seconde voie. Et ainsi de suite. Alors, vous savez, à la fin, il n'y aura plus personne. Et alors, à ce moment-là, vous pourrez dire, vous voyez, c'est comme ce bon vieux père qui était très scientifique et qui, par le fait même, écartait tout le monde de sa prédication. Et quand il n'y avait presque plus personne, il disait, maintenant, je peux parler parce qu'il n'y a plus que des êtres intelligents qui sont restés. Ça, c'était le cinquième dimanche. La cinquième fois, il n'y avait plus que ça. C'est vrai, on ne peut pas prêcher, ça, c'est impossible. Mais c'est quelque chose de très important. Et de reconnaître qu'il y a autre chose. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la position de Saint-Anselme, vous voyez, nous ne l'avons pas vue. La manière de Saint-Thomas, ce serait intéressant. Vous voyez dans ce que j'ai fait sur la recherche de Saint-Thomas, c'est très intéressant de suivre l'évolution de Saint-Thomas face à Saint-Anselme. Et je crois que ce serait très intéressant à creuser. Parce que c'est quand même un aspect extrêmement important, la position de Saint-Anselme. C'est un aspect premier. Et ce qui est très curieux, c'est que Saint-Thomas ne l'a jamais intégré. Avec beaucoup de respect. Et c'est là où on voit comment Saint-Thomas fait un jugement et un discernement à l'égard de la tradition. Saint-Thomas assume Saint-Augustin. Et Saint-Thomas n'assume pas Saint-Anselme. Alors c'est pas parce que Saint-Augustin est le grand-père, hein, pour les Dominicains, Saint-Augustin est le grand-père, hein, la règle de Saint-Augustin. Et que Saint-Benoît reste à côté. C'est pas parce que ça du tout. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui peut être assumé et d'autres ne peuvent pas être assumés. Pour Saint-Thomas, Saint-Anselme ne peut pas être assumé. C'est net. Il le fait avec beaucoup de révérence, beaucoup de respect, mais il ne peut pas être assumé. Parce que cette voie de pure intériorité, Saint-Thomas reconnaît, elle n'est pas objective. Donc elle n'est pas scientifique. Laissez-la pour les néoplatoniciens. Mais pour les néoplatoniciens, c'est très bien, mais alors, c'est pas scientifique. C'est la participation. Très très bien, on laisse ça. C'est intéressant, il faut le regarder, mais c'est pas quelque chose d'important. Nous le verrons à propos de la participation. Hein. Mais ce qui est, je crois que c'est très important de comprendre que ce premier moment, Saint-Thomas ne le prend pas, et il assume tout ce que les autres pères de l'Église disent, dans un réalisme, dans une objectivité, les cinq voies. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre la position de Suarez par rapport à celle de Saint-Thomas. Ça me semble très intéressant et très important pour essayer de comprendre ensuite la position de Descartes. Parce que, vous comprenez, que si Suarez n'avait pas existé, Descartes n'aurait pas existé. Ça, c'est très net, hein. Descartes a eu des professeurs suarésiens. Il a réagi contre ses professeurs, mais il était quand même imprégné par eux. Alors c'est intéressant de voir l'intention profonde de Suarez. L'intention profonde de Suarez, c'est dans les disputationes, les disputes métaphysiques, d'essayer de saisir à partir de saint Thomas, donc à partir des voies scientifiques, de saisir une philosophie dite thomiste. Vous vous demandez si c'est une philosophie thomiste. Ça, c'est pas le problème d'ici, mais c'est quand même intéressant. Une philosophie dite thomiste. Une philosophie, comme on dirait aujourd'hui, baptisée par saint Thomas. Aristote baptisé par saint Thomas. Saint Thomas a baptisé Aristote, il s'en est servi, donc il l'a baptisé. Alors, est-ce qu'on peut, à travers la théologie de saint Thomas, redécouvrir une philosophie? Ça, c'est un très grave problème. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème, on ne comprend pas la scolastique. Alors, il faut saisir comment Suarez a comme désir, pour sauver Saint-Thomas, de redécouvrir à travers la pensée théologique de Saint-Thomas, de redécouvrir une pensée purement philosophique. Alors, je crois que c'est impossible. Pourquoi ? Parce que justement, il y a une science théologique. S'il y a une science théologique, je ne peux pas, à l'intérieur de cette synthèse particulière qu'est la théologie, redécouvrir les éléments. C'est une synthèse particulière. Autrement dit, si vous voulez, l'ordre. de la somme théologique est un ordre proprement théologique. Et le propre de la philosophie, c'est de redécouvrir un ordre qui soit propre à la recherche philosophique, c'est-à-dire à la recherche de l'intelligence livrée à elle-même. Or, cet ordre du théologien, cet ordre du théologien, ne peut pas être l'ordre philosophique. Il y a deux ordres différents, c'est un ordre de sagesse différent. Et cet ordre ne se peut pas être identique. Et donc, je ne peux que saisir des éléments philosophiques à l'intérieur de cette synthèse. Et ces éléments, je précise, ces éléments, ce sont des rationes, je dis en latin parce que ça va mieux, des rationes, des notions philosophiques, des définitions philosophiques, mais aucun principe. Alors c'est pour ça qu'on a, à partir de Suarez, un primat des définitions. Et la scolastique, pour beaucoup, ce sont des définitions. Vous voyez, quelqu'un qui est très respectable, hein, mais qui est tout à fait représentatif de ça, notre cher père Dogen, n'est-ce pas ? Alors c'est ça, c'est tout à fait représentatif de ça. C'est celui qui donne des définitions. Il donne des scolastiques pour lui. Saint Thomas, ce sont des définitions. Il n'y a jamais une recherche inductive. Représentative de ça. C'est celui qui donne des définitions. Il donne des scolastiques pour lui. Saint Thomas, ce sont des définitions. Il n'y a jamais une recherche inductive. Jamais, ça n'existe pas. On vous donne des définitions. Donc on ne saisit pas les principes. On reste au niveau catégorial. On donne les catégories. Ça, les catégories, on les donne. Pour donner des définitions. Pour donner les rationnels, les notions. Mais aucune recherche inductive. S'il n'y a aucune recherche inductive, mais il n'y a pas de philosophie. Vous restez à la porte, au seuil. Vous restez au seuil. Et comme vous pensez que ces catégories sont la philosophie, vous faites du seuil le saint des saints, livré aux gentils. Alors, il n'y a plus du tout à ce moment-là de philosophie, il n'y a plus de pensée philosophique, il n'y a plus que des définitions, des catégories qui n'ont pas beaucoup de signification. Ça, j'avoue, ça n'a pas beaucoup de signification. C'est de l'ordre de quelque chose de commun. C'est intéressant, oui, ça, parce que les gens ont vécu là-dessus pendant des années et des années. Alors c'est intéressant ce point de vue-là. C'est ça qu'on appelle la scolastique. Hein. La scolastique décadente, c'est à partir de Suarez, ces catégories, ces définitions, qui sont tout simplement saisies à partir d'une pensée théologique. Alors ce n'est plus de la théologie, ce sont uniquement des éléments qu'on reprend. Et je crois qu'on peut dire ça lorsqu'il s'agit de Suarez. Hein. Pour Suarez, une seule de ces quatre... Alors, vous voyez, oui, je vous disais, à propos les opinions qu'il donne. Parmi ses devanciers, quatre positions possibles. Ou bien la physique prouve seule l'existence de Dieu, Averroès. Ou bien la métaphysique seule la prouve, Avicenne. Ou encore l'une et l'autre la prouve, mais séparément. Position qui pourrait trouver un fondement chez Aristote. Et enfin... Elle la prouve conjointement en ce sens que la physique ébauche la preuve et que la métaphysique l'achève. Mais comme c'est curieux comme position, hein. C'est intéressant de voir ça. Les quatre possibilités qu'il a parmi ses devanciers. Il distingue parmi ses devanciers quatre positions possibles. Avicenne, Averroès, une certaine position d'Aristote et puis la vraie position qu'il prend. Pour Suarez, une seule de ces quatre opinions est vraie, d'une manière absolue. La seconde. Seule la métaphysique, à qui appartiennent les raisonnements les plus abstraits et les plus universels, c'est de lui, ça c'est cité, peut démontrer l'existence d'un être incréé. Mais une métaphysique séparée de la physique. donc séparée de l'expérience. Une métaphysique à laquelle appartiennent les raisonnements les plus abstraits, les plus universels. On atteint Dieu par là. Cependant, Suarez n'admet pas que l'on puisse démontrer l'existence de Dieu par la quidité de Dieu comme tel. Il n'y a pas de démonstration purement a priori. Il faut procéder a posteriori, en mettant en œuvre le principe suivant. Tout ce qui est fait par un autre. Ah, voilà le principe de causalité, hein. Vous voyez comme il est beau. Tout ce qui est fait par un autre. Donc tout ce qui est créé par le Créateur. Vous voyez bien, quelle belle créature, je suis en face de vous, comme le Créateur doit être beau, vu les créatures si belles devant lesquelles nous nous trouvons. C'est très cru, hein, vous voyez, le seul principe que Suarez admet, c'est vraiment tout ce qui est fait par un autre. On raisonne ainsi. Tout être, ou bien a été fait, ou bien n'a pas été fait, et est incréé. Majeure que Suarez considère comme évidente. Mais on part d'une division. Tout être, ou bien a été fait, ou bien n'a pas été fait, et est créé. Or, il n'est pas possible que les êtres qui sont dans l'univers aient été faits. Donc il n'est pas possible que tous les êtres qui sont dans l'univers aient été faits. Car cela supposerait, puisque tout ce qui est fait par un autre, que l'on remonte à l'infini, ce qui supprimerait toute causalité, ou que l'on admette une circularité dans les causes, ce qui est également impossible. On doit donc conclure que nécessairement, il doit y avoir un être qui n'a pas été fait, un être incréé. Voyez qu'il n'y a plus le principe de causalité, il n'y a plus que le principe de non-régression, c'est l'infini. C'est ça qui est très intéressant à voir. Mais ce n'est pas suffisant, car on n'a pas encore démontré que cet être incréé, nécessaire par soi, est unique. Qu'il est un numériquement, selon la nature et l'essence. Or, tant qu'on n'a pas démontré qu'il est unique, on ne peut pas conclure véritablement qu'il est la cause première de toutes les autres réalités qui sont ou peuvent être, et donc qu'il est Dieu. Alors pour démontrer que Dieu est non pas seulement un être incréé, mais que Dieu existe, il y a deux voies. L'une qui est tout à fait a posteriori, à partir des effets, l'autre qui est de manière prochaine a priori, mais fondamentalement a posteriori. Oui, ça fait l'éclectisme de Suarez. C'est une preuve a posteriori, et c'est en même temps, il y a quand même quelque chose a priori qui doit être dedans. La première, celle qui est la plus conforme aux affirmations de l'Épître aux Romains et du Livre de la Sagesse, et celle que les pères ont le plus utilisée pour l'ordre et la beauté, par l'ordre et la beauté de l'univers. Devant les objections que l'on peut faire à cet argument, il ne conclut pas nécessairement à l'existence d'un créateur et d'un créateur unique. De plus, il pourrait y avoir d'autres univers ayant pour auteur d'autres êtres premiers à créer. Suarez avoue que l'on ne peut pas, a posteriori, démontrer qu'il n'existe qu'un seul être incréé. Oui. Vous pouvez démontrer qu'il y a un absolu, mais vous ne pouvez pas démontrer qu'il n'existe qu'un seul être incréé. Il faut donc recourir à une démonstration a priori qui, présupposant la voie a posteriori, va consister à démontrer a priori un attribut de Dieu à partir d'un autre. Une fois que l'on a démontré a posteriori que Dieu est, être nécessaire par soi, on démontre a priori l'unicité de cet être nécessaire. Et donc par là, on démontre que Dieu existe. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, mais vous voyez comment tout repose sur ce principe qui n'est plus le principe de causalité. Tout ce qui est fait par un autre. Mais tout ce qui est mu par un autre. Tout ce qui est fait par un autre. Oui. C'est très intéressant à voir la modification de ce principe. Tout ce qui est créé par le Créateur. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. On ne peut pas remonter à l'infini. Oui.
Est-ce que ça ne provient pas que justement la création, étant à l'image de Dieu, la un peu, tout ce qui est fait, c'est par un nom, alors que tout ce qui est fait.
Oui, mais alors voyez, vous partez de la foi.
Oui.
Donc c'est plus.
Justement, c'est parce que là, à cause de ce lien de la création, donc soit on va par en haut, puisque les deux, donc la création va revenir à Dieu d'une certaine façon, par ce fait que les animaux, donc soit que l'on part d'en haut, connaissant Dieu lui-même, c'est que.
Tout à fait. C'est la parole.
Oui,
oui, ça c'est la position de l'écriture. Dieu a fait la créature. Mais là on part de Dieu. Partant de Dieu, vous voyez, c'est pour ça que je dis, il y a une pétition de principe. Vous voyez, si je pars de Dieu pour montrer que Dieu existe, Dieu est déjà dans le point de départ. C'est la foi.
Je vais pour revenir au principe philosophique.
Non. Ce que j'ai. Voyez. Ce que je veux montrer, Suarez veut redécouvrir dans la position théologique de saint Thomas une philosophie pure. Or, de fait, retrouvant cette position philosophique, il y a ce principe qui n'est plus le principe de causalité. Donc, tout ce qui est fait par un autre. Mais, c'est de dire, par exemple, que tout effet du fait même qu'il est un effet implique une cause. Saint Thomas dit bien ça. Mais il le dit tout simplement pour montrer que je ne peux remonter à Dieu que par une démonstration postériori. Oui. Mais je ne peux pas partir de ce qui est fait. Parce que si je pars de ce qui est fait, c'est déjà impliqué qu'il est fait par l'autre. Oui. Alors, partant, c'est comme si on partait de l'image. Partant de l'image, ça présuppose qu'il y a nécessairement un premier. Je ne peux pas dire devant une réalité que je constate qu'elle est une image. Parce que ça prouverait que j'ai déjà la vision du modèle. Oui. Alors je peux le dire en croyant, parce qu'en croyant, je pars du Créateur. La première notion de la foi. Tout est créé par Dieu. Alors partant du Créateur, je peux dire c'est une image. Et alors je peux dire à partir de ce moment-là, tout ce qui est fait par Dieu. Oui. Mais en position philosophique, je ne peux pas constater immédiatement que c'est une image. Je constate que les réalités qui sont autour de moi existent. Voilà. Je ne peux pas avoir d'autre point de départ que celui-là. Toutes les réalités que je vois existent. Elles existent selon un mode particulier qu'elles sont mues. Et c'est à partir de là que je peux dire tout ce qui est mu par un autre, dans la mesure où je saisis le principe de causalité. Ce n'est pas la même chose. Tout ce qui est fait par un autre. Tout ce qui est mu par un autre. Vous voyez, c'est ça qu'il faudrait réfléchir là-dessus. Voir le passage entre les deux. Tout ce qui est mu par un autre. Tout ce qui est fait par un autre. Alors, est-ce que je peux identifier ces deux principes? Ou est-ce qu'au contraire, justement, d'un côté, je suis en présence d'une réalité du fait qu'elle est faite, elle dépend d'un autre. Mais, par le fait même qu'elle est faite, elle implique déjà l'autre. Puisque ce qui est fait est réalisé par un autre. Donc, pétition de principe. Tandis qu'au contraire, quand je dis tout ce qui est mu par un autre, il n'y a pas de pétition de principe. Parce qu'en tant qu'il est mu, je monte sa limite. Et en montrant sa limite, sa potentialité, je dis qu'il ne peut pas être mu par lui-même, il est mu par un autre. Je crois que c'est là où on saisit, vous voyez, la manière dont Suarez désire retrouver une philosophie à l'intérieur de la théologie de saint Thomas, mais que pratiquement il ne peut découvrir que des définitions et il ne redécouvre plus aucun principe. Alors, dans la suite de Suarez, il faudrait situer Descartes. Alors là, nous allons voir un tout petit peu la position de Descartes, parce qu'elle est très importante. Je crois que Descartes a posé, au point de vue histoire de la philosophie, par rapport au problème que nous situons, Descartes a universalisé une position, à partir d'où va naître ce qu'on appelle l'ontologisme. Alors si je regarde Descartes, c'est pour essayer de comprendre comment en Descartes va naître une position philosophique qu'on va appeler l'ontologisme. Et l'athéisme contemporain se situe en opposition avec l'ontologie de Descartes. Sartre l'a dit admirablement. Il faut bien reconnaître. Sartre a une intuition prodigieuse vis-à-vis de Descartes. Parce que sans doute il se trouvait très proche de Descartes. Et c'est vrai qu'il y a un parallélisme très étonnant entre Sartre et Descartes. Très intéressant. Parallélisme, comprenez bien. chien et chat. Alors évidemment, je ne sais pas quel est le chien, quel est le chat, ça c'est aussi vous qui le direz. Mais au fond, ils sont en opposition. Ils sont en opposition telle qu'ils sont dans le même genre. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui m'intéresse au point de vue philosophique, vous voyez, ce qui m'intéresse au point de vue philosophique, c'est d'essayer de comprendre comment Descartes va être au point de départ de toute une position philosophique qu'on va appeler l'ontologisme. Et cette position philosophique de l'ontologisme va donner naissance à une position diamétralement opposée quant à sa conclusion, l'athéisme contemporain. Et je crois qu'on pourrait, alors ce serait une étude très intéressante à faire, on pourrait découvrir à travers tous les athéistes contemporains, les 7 ou 8 formes d'athéistes contemporains, parce qu'ils ne sont pas uniques, découvrir à travers tous les athéistes contemporains des anti-ontologismes. Mais pour bien découvrir ça, il faut découvrir d'abord l'ontologisme. Mais pour découvrir l'ontologisme, il faut regarder Descartes. Oui. Alors vous voyez, je disais Thomas d'Aquin, Suarez, Descartes. Et découvrir Descartes dans ce qu'il a de tout à fait particulier par rapport à ce problème de l'existence de Dieu. Ce que nous verrons la fois prochaine.